Philippe Reynaud, vous souriez pendant cette chronique et je suis sûr que vous avez des choses à dire sur l'ingratitude des politiques.
Je n'ai pas grand-chose à ajouter à cette chronique qui était vraiment très, très réjouissante et très intéressante. Ce que je dirais, c'est que normalement, si on faisait une typologie des passions et des vertus qu'on peut rattacher à des différentes familles politiques, normalement, la gratitude devrait être une vertu de droite.
Pour quelle raison ?
Parce que je dirais que s'il y a quelque chose qui est défendable dans la sensibilité de droite, c'est le fait de considérer le donné, l'héritage, etc., comme quelque chose qui n'est pas un maléfice dont il faudrait se libérer, mais d'une certaine manière un bienfait. Ce qui définit un certain tempérament conservateur, c'est le sentiment de la dette à l'égard de ce dont on est issu. Et il me semble que la gratitude, c'est une vertu qui prolonge ce sentiment. Alors, chacun jugera si chez les hommes politiques de droite en chair et en os, c'est une vertu très répandue ou pas. Ça, c'est une autre affaire, justement.
En face de vous, nous accueillons un journaliste de droite, Vincent Trémollet, bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro et au Figaro Vox, le site internet du Figaro, qui a une importance cruciale, je dirais, dans cette campagne, parce qu'il accueille un certain nombre de débats, d'interviews qui comptent et qui permettent d'avoir une pluralité de droits de voix. Voix de droite, pardon. Vous êtes donc en quelque sorte au cœur du réacteur et puisqu'il est question ce matin de la droitisation et de la possibilité des candidats à la primaire des Républicains de l'emporter par la droite, avez-vous la sensation que la droite se droitise en ce moment ?
Alors, au risque de vous décevoir, moi je pense que si le clivage droite-gauche est opérant encore électoralement, il est inopérant intellectuellement. Et donc au Figaro Vox, nous, c'est un espace de débat et d'opinion. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que les clivages idéologiques ne correspondent plus au clivage droite-gauche. Donc on est un peu perdu pour définir la droitisation. Je vais prendre quelques exemples. Si vous prenez l'école, la réforme du collège qui a donné lieu à des passes d'armes entre les pseudo-intellectuels, comme les avait qualifié Najat Vallaud-Belkacem, et le gouvernement a été mené par des gens de gauche. Sur l'islam, Manuel Valls est peut-être plus proche de Nicolas Sarkozy que d'Alain Juppé. Sur la nation, Arnaud Montebourg se rapproche des thèses d'un Nicolas Dupont-Aignan. Et donc on est avec des lignes de fracture qui ne correspondent pas au clivage politique. Alors dedans, ce que l'on voit, moi j'aime bien la phrase de Pierre Nora pour définir ce phénomène un peu insaisissable. Pierre Nora parle de réaction conservatrice. Mmh. Alors ça, oui, peut-être. L'idée de protection et de conservation est au cœur de cette campagne des primaires et elle s'exprime de deux façons. Par le discours avec Nicolas Sarkozy, puisque la personne n'est pas rassurante, par la personne avec Alain Juppé, puisque cette personne est rassurante, puisqu'elle incarne plus facilement la fonction présidentielle, avec un discours qui est moins satisfaisant pour ce qu'attendent les électeurs.
Et donc, vous, en quelque sorte, refusez la notion de droitisation. Est-ce que vous avez l'impression qu'une recomposition est en train de naître ? Parce que, effectivement, sur une question comme la question de l'islam, on voit d'ailleurs dans le Figaro Vox un certain nombre de personnes de gauche interrogées. Je pense par exemple à Céline Pina
ou à Laurent Bouvet ou à Gilles Clavreul, par exemple.
Est-ce que c'est une recomposition qui est en train de s'opérer ?
Oui, je pense que cette recomposition n'est pas achevée. Donc elle est difficile encore à décrire. Il y a quelqu'un qui travaille beaucoup dessus et qui travaille parfois pour nous, Gaël Brustier, qui doit être parfois sur votre plateau, qui est en train d'essayer de la définir. Il y en a d'autres qui travaillent dessus. Mais en fait, elle a commencé avec la chute du mur. Depuis 20 ans, elle se remet en place. Je pense qu'Emmanuel Macron, dont on parlait tout à l'heure, touche à quelque chose de juste quand il parle du clivage entre progressistes et conservateurs. Luc Ferry, qui fut ministre de droite, est parfois plus proche des progressistes de gauche qu'Alain Finkielkraut qui était à gauche et qui se trouve parfois avec les conservateurs. Donc cette recomposition est en marche avec quand même un point de consensus à droite et même à gauche si on parle de François Hollande et Manuel Valls qui est l'économie. Et comme sur l'économie c'est à la marge que les désaccords se font, c'est plutôt sur les sujets de société qu'on essaye de se distinguer.
Qu'en pensez-vous Philippe Reynaud ?
Je suis pas sûr que sur le dernier point, il n'y ait pas des clivages en formation sur les questions économiques. Quand vous parlez de convergence possible entre Dupont-Aignan et
Arnaud
Montebourg, c'est bien un clivage sur des questions fondamentales de politique économique où c'est pas seulement la nation qui est en cause, c'est la la question protectionniste, qui est quelque chose qui est pour l'instant sous le couvercle, mais qui peut revenir assez rapidement dans le débat politique. À part ça, je suis d'accord avec vous. J'ajouterais que c'est quelque chose qui est à la fois l'effet, je trouve, d'une recomposition nationale et la réfraction d'un mouvement presque mondial.
Oui.
C'est-à-dire que sur le plan interne, national, nous vivons depuis à peu près une trentaine d'années sous l'effet de ce que les politistes appellent un réalignement électoral qui s'était fait en fait lors des mandats de Mitterrand et qui fait que nous avons un système politique qui est dominé par l'affrontement entre le RPR et le PS et dans lequel le Front National jusqu'ici était une espèce de pôle de négativité vers lequel allaient les gens qui n'étaient pas contents. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il y a plus de mécontents qu'à l'époque où c'était le PC, le PS, et aussi aberrant que ça puisse paraître. Or, ce système marchait, je dirais, tant que le Front National était à 15 ou 18%. À partir du moment où il est en permanence à plus de 20%, ça déplace les choses, et il y a un certain nombre de questions qui étaient sous le boisseau jusque-là, qui vont arriver et perturber le débat politique.
Vincent Trémollet.
Avec un élément quand même très intéressant, c'est que les deux grands partis, le PS et les Républicains, ont vu cette évolution et cette recomposition, mais la refusent pour des raisons électorales, et donc essayent de la maintenir. Et par quoi ? Par le système des primaires, qui fait que les primaires empêchent l'expression extérieure d'une politique, et ce qui explique d'ailleurs la stratégie parallèle d'Emmanuel Macron.
On continue à s'intéresser aux primaires de la droite pour savoir si celles-ci sont gagnables à droite ou à gauche. Et nous sommes en ligne avec Brice Teinturier. Bonjour Brice Teinturier.
Bonjour Guillaume Herder.
Vous êtes directeur général délégué d'Ipsos, l'institut de sondage. On s'interroge sur la droitisation de la droite, mais aussi plus largement sur la droitisation de l'opinion et sur un certain nombre de thèmes, Brice Teinturier, tels que la mondialisation, tels que la présence d'immigrés, tels que la manière dont il faudrait punir les délinquants. On a l'impression que l'opinion française se droitise. Qu'en pensez-vous ? Est-ce corroboré par les chiffres dont vous disposez, Brice Teinturier ?
Oui, en partie. On a toute une série d'indicateurs qui nous montrent qu'on peut, je crois, parler de droitisation de l'opinion, même s'il faut nuancer, comme vous avez déjà commencé à le faire, cette idée. Alors, dans ces indicateurs, j'ai envie de dire, il y a les résultats électoraux, déjà, tout simplement, qui nous montrent quand même une gauche affaiblie dans la zone des 30-35%. Mais au-delà de ça, l'idée de solidarité régresse dans l'opinion, au profit de ce que certains appellent l'assistanat, mais qui est aujourd'hui très prégnant dans l'opinion publique française. On a également un recul de l'idée de progrès, de l'idée d'émancipation par le progrès, qui était un marqueur de gauche profond pendant longtemps. Et là, c'est l'irruption de ce que moi je crois être effectivement le mouvement le plus fort de la société française, à savoir la tradition, un mouvement profond de revalorisation de la tradition, de nostalgie, un cycle plutôt à la Joseph de Maistre qu'à la Rousseau, ou en tous les cas qu'à l'idée d'émancipation par le progrès. Et puis on a également des demandes fortes d'autorité, des attitudes à l'égard de l'immigration ou des migrants, qui témoignent plutôt d'une volonté de se replier ou de fermeture, qui va à l'opposé d'une tradition de gauche qui était dans l'ouverture ou dans l'idée d'un universalisme à exporter. Alors une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il faut en même temps tout de suite le nuancer, parce qu'il y a d'autres phénomènes dans la société française qui vont à l'encontre de ce schéma un peu binaire de droitisation. Par exemple, l'attachement toujours très fort à des mécanismes de protection à travers des modèles de protection sociale. L'idée que les salariés, les travailleurs sont exposés à une vulnérabilité très forte et qu'il faut la contrer est également très présente. Un attachement en France à la thématique de la justice, de l'égalité, qui reste aussi très très forte. Une volonté de participation citoyenne qui s'oppose à la verticalité autoritaire. Et donc on se rend compte que, je pourrais multiplier des exemples, qu'il est un peu simpliste de uniquement parler de droitisation de l'opinion. Et en réalité, mais c'est ce que vous avez encore une fois commencé à souligner, moi je crois qu'il y a une complexification des clivages et qu'à côté du clivage gauche-droite, il y a évidemment le clivage peuple-élite qui maintenant devient aussi de plus en plus explicatif et puis un clivage d'attitude des gens anciens mais à l'égard de la mondialisation qui vient expliquer en partie l'évolution de la société française et donc on ne peut pas tout ramener simplement au clivage gauche-droite qui reste explicatif. C'est là où je nuancerai quand même un petit peu, je pense pas du tout qu'il soit mort ce clivage. mais d'autres logiques sont venues se surajouter au clivage gauche-droite.
Merci beaucoup Brice Teinturier d'avoir été avec nous ce matin. Philippe Reynaud, que dire de ce constat, donc droitisation partielle, mais malgré tout demande de protection, nous dit Brice Teinturier.
Oui, moi je trouve l'analyse de Brice Teinturier très, très intéressante et je virais tout à fait dans son sens. Je pense d'ailleurs que c'est une erreur du côté de la droite, enfin ça peut être une erreur, de tirer trop de conséquences de la prétendue droitisation de l'opinion. Moi je suis frappé notamment par le fait que les grands candidats à la primaire, et même les autres d'ailleurs, semblent tenir pour absolument évident que dans les premières semaines de leur mandat, ils arriveront à faire passer des réformes libérales puissantes que le pouvoir socialiste n'a pas eu le courage d'imposer, etc. C'est explicite chez François Fillon, c'est un peu spectaculaire chez Sarkozy, mais c'est également présent sur un mode plus raisonnable chez Alain Juppé, qui serait probablement le plus capable de se défaire trop, de ses engagements un peu aventureux à mon avis, mais je suis pas du tout certain que ce soit très très judicieux par rapport à l'opinion française, parce que regardez les réactions à la loi El Khomri, ça va pas nécessairement dans ce sens quand même.
Je suis absolument d'accord avec vous. Je pense qu'il y a deux mots qui sont les deux mots clés de l'élection de 2017. Je ne saurais pas dire s'ils sont de droite ou de gauche. C'est les mots d'autorité et de protection. Il y a une volonté de restauration de l'autorité politique qui a été dévaluée par le quinquennat Nicolas Sarkozy et celui de François Hollande. Et donc, les Français cherchent celui qui pourra la restaurer. Et une volonté de protection qu'un certain nombre de mouvements comme celui contre la loi El Khomri ont montré et qui témoigne de la difficulté qu'aura la droite si elle veut faire appliquer de façon directe et par ordonnance son programme.
Avec votre permission, j'en rajouterai un qui est celui de tradition, mode de vie français. On va en tout cas l'écouter dans la bouche de Nicolas Sarkozy. C'était en mai 2016 dernier, il était alors en visite à La Réunion.
La France, c'est quoi? C'est une histoire, c'est une passion, c'est un terroir, c'est une langue, c'est un mode de vie. Nous souhaitons garder notre mode de vie. Et voyez-vous, madame, pour nous en France, il y a des principes qu'on peut pas négocier. La femme et l'homme sont à égalité. Un homme serre la main d'une femme. Une femme n'exige pas à l'hôpital un médecin femme. Dans les piscines publiques, ce seront les mêmes horaires pour les femmes et sur les hommes. Quand on vient en France, on est accueilli les bras ouverts. Mais on adopte la langue française, on aime la France et le mode de vie français.
Pas de concession sur le mode de vie français, est-ce que ça peut être un marqueur? À droite, il est également défendu par une partie de la gauche. Philippe Reynaud, votre impression?
Moi, je dirais que c'est à la fois vrai et un peu imprécis. C'est-à-dire que les Français, comme tout le monde, sont mus par l'intention de persévérer dans leur être. Mais enfin, leur mode de vie a beaucoup évolué au fil des ans, et depuis 50 ans, c'est pas tout à fait le même mode de vie que quand j'étais petit, quand même.
Non, ça c'est incontestable, mais oui, d'invoquer...
Non, mais invoquer, alors entendons-nous, moi je pense que c'est... ça n'a rien de scandaleux de le faire, mais simplement, je dirais que ce qui est plus vrai, enfin moi ce que je crois ressenti par les gens, c'est pas le fait que les entrants devraient adopter leur mode de vie, c'est plus modestement le fait qu'ils devraient respecter leur mode de vie, ce qui est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que il est pas tout à fait raisonnable, si vous voulez, d'attendre que des gens qui viennent d'arriver de pays lointains deviennent des Gaulois ou des Français à Camembert dans les deux années qui suivent. Mais simplement, peut-être que ce qui ne plaît pas à l'opinion dite conservatrice, c'est le fait que leur résistance ou leur conservatisme soit stigmatisé, présenté comme odieux, etc. Il me semble que les demandes de l'opinion sont plus modestes que celles que dit Nicolas Sarkozy ici.
Et ce qui est intéressant, c'est que les propos de Nicolas Sarkozy font écho au livre de Patrick Buisson, La cause du peuple, alors même que Patrick Buisson, semble-t-il, n'est plus aux côtés de Nicolas Sarkozy. Et je cite un extrait de Patrick Buisson. « Comment expliquer à la nouvelle classe dirigeante, à ses déracinés se proclamant fils de personne, à ses adeptes du patronyme flottant ou extensible, qu'un pays n'est pas seulement la propriété de ceux qui y vivent, mais aussi de ceux qui y ont vécu, aimé, souffert, travaillé, allant jusqu'à faire le sacrifice de leur vie pour le transmettre tel qu'il l'avait reçu? Comment faire comprendre à ces bobos, si proches des bonobos par leur sexualité agénésique, autrement dit sans but reproductif, que 65 millions de vivants n'ont plus de droit sur une terre et certainement pas celui d'aliéner ou d'en disposer à leur guise que les myriades d'êtres humains qui les ont précédés? » Est-ce que ce discours-là, le discours de Patrick Buisson, Vincent Trémollet, il vous paraît à même de fédérer une bonne partie de la droite?
Bah, c'est le discours de l'héritage. Je pense que, comme le disait Philippe Reynaud, il y a une bonne partie du pays, je ne sais pas si, peut-être il y en a qui sont à droite, mais il y en a aussi qui sont à gauche, qui considèrent que leur art de vivre et ceux de leurs parents doit être respecté, doit être transmis, et en quelque sorte est un trésor. Ensuite, je pense que la question de l'islam, puisque c'est de ça dont on parle, et c'est de ça dont parlait Nicolas Sarkozy tout à l'heure, cristallise quelque chose, et comme le dit Régis Debray ce matin dans le Figaro, peut-être l'a-t-il dit hier chez vous, pose la question à ceux qui ne sont pas musulmans, à ceux qui accueillent, qui sommes-nous ? Et la vérité de la question musulmane en France, c'est ça, c'est-à-dire que on dit il faut intégrer, il faut assimiler, mais à quoi ? Comment se définit-on ? Et là, les politiques, pour l'instant, donnent des réponses assez pauvres.
La réponse de Patrick Buisson est assez claire, c'est que l'islam, il faut l'assimiler au christianisme. Lui défend une vision qui est, je dirais, intégralement chrétienne de la société française, chrétienne, non pas judéo-chrétienne, d'ailleurs, il débarrasse également cet aspect-là.
Oui, ça, c'est une. Enfin, je pense que les politiques sur ce sujet-là ne sont pas au niveau de ce que l'on attend, et c'est pour ça que les intellectuels prennent une place qu'ils n'avaient pas autrefois. Jacques Julliard dit qu'autrefois, dans les années 80, les intellectuels conseillaient les princes pour gouverner le peuple, et aujourd'hui les intellectuels parlent au nom du peuple parce que le prince n'écoute plus le peuple. Et je pense qu'il y a des choses vraiment à suivre, très intéressantes pour les politiques de droite comme de gauche, pour essayer de sentir les ressorts de l'inconscient collectif et cette inquiétude de la dépossession dont nous parlons.
Mais Philippe Reynaud, c'est quand même très paradoxal cela, d'avoir un discours qui est un discours pratiquement de croisade, alors même que nous vivons dans une société qui, en tout cas pour la chrétienté, est en grande partie laïque. Est-ce que vous pensez vraiment que ce discours puisse encore avoir des adeptes?
Moi, je pense que ce discours aura toujours des difficultés à avoir des adeptes, parce que la France est un pays dans lequel, pour parler comme dans notre jeune temps, le signifiant conservateur est un peu maudit. C'est un pays où personne n'assume le fait d'être conservateur. Et où du coup, ceux qui devraient être conservateurs ont tendance à être réactionnaires. Ce qui me semble-t-il est le cas dans le texte que vous citez de Buisson. Ce texte me fait penser à quelque chose qui est très connu, un peu rebattu, mais qui est quand même vrai. Intéressant, c'est ce fameux passage de L'étrange défaite de Marc Bloch, dans lequel celui-ci dit qu'il y a deux catégories de gens qui comprennent pas la France. C'est ceux qui peuvent pas vibrer au souvenir du Sacre de Reims, c'est ceux qui peuvent pas le faire au souvenir de la fête de la Fédération. Eh ben, Buisson fait nettement partie de la deuxième catégorie. C'est quelqu'un qui pense que l'histoire, d'une certaine manière, commence à s'effondrer en 1789. Mais ce que vous remarquerez par ailleurs, c'est une chose qui me frappe depuis longtemps, c'est chez les hommes politiques réels d'aujourd'hui, vous n'entendrez personne, quand on évoque la France, quand on daigne évoquer la France, c'est toujours la France depuis 1789. L'universel, les droits de l'homme, etc. Les références à la longue durée française ont disparu du discours politique français, sauf peut-être chez François Bayrou, qui aime bien Henri IV, en fait, des choses un peu anecdotiques. C'est quelque chose qui montre un déficit de sensibilité.
Un mot de conclusion,
j'aime
Vincent,
bien la phrase de Pierre Manant qui dit que l'histoire de France est une phrase qui commence avec Clovis et qui continue avec la Révolution et qu'il ne faut pas couper la phrase au milieu.